Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment très heureux de vous rejoindre là où vous êtes. La Bigorre reprend possession de son sanctuaire. Oui, le sanctuaire international Notre-Dame de Lourdes, eh bien, c'est un sanctuaire diocésain. Et c'est le pèlerinage de la Bigorre qui se déroule durant tout ce week-end. Anne-Rose Jankovic, bonjour.
Bonjour Mathias.
Ensemble, nous allons proposer une émission dense spéciale en direct avec des invités. Un certain nombre d'entre eux sont déjà dans ce studio. Nous parlerons de la jeunesse présente à Lourdes. Nous parlerons également de toutes ces composantes d'un diocèse de Tarbes-et-Lourdes qui est vraiment très heureux de reprendre, comme je disais, possession de son sanctuaire durant tout un week-end.
Oui, ça fait un an et demi que les diocésains attendent ça. Voilà, le pèlerinage a changé de formule, hein, si on peut expliquer ça comme ça. Depuis mars de l'année passée, les diocésains ne se sont pas rassemblés à Lourdes pour vivre ce pèlerinage. Donc là, c'était un rendez-vous vraiment attendu. Les pèlerins découvrent depuis vendredi soir les nouveautés proposées. Des familles sont arrivées déjà, beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, on attend près de 4000 personnes venues des quatre coins du diocèse pour vivre une journée hors du commun.
Alors vous qui venez de nous rejoindre là, nous sommes en direct, nous sommes à Lourdes et à 10h30, il y a la messe. La messe sera célébrée à la basilique souterraine Saint-Pédis. Il est encore temps de vous décider de venir rejoindre les quelques 4000 personnes qui seront rassemblées. Alors des jeunes, des enfants, bien sûr des prêtres diocésains, les diacres, tous ceux qui sont à l'œuvre, ou que ce soit dans les secteurs, dans les différents lieux, paroisses, mouvements et services d'église. Bref, c'est toute la Bigorre qui s'est mise en marche depuis vendredi, avec en particulier au cœur du pèlerinage les personnes fragiles, malades, handicapées, qui sont accompagnés, qui sont aidés par de la jeunesse. Il y a 130 jeunes hospitaliers, enfin bref, on parlera des chiffres, mais on va voir que vraiment tout ça est plein de dynamisme. Justement, Anne-Rose, aidez-nous à nous plonger dans l'ambiance, parce que là on en parle depuis quelques minutes. Quelle est la réalité de cette ambiance du Pélé de Bigorre, en particulier à Saint-Fray?
Alors voilà, la réalité, c'est que depuis vendredi soir, l'accueil Marie-Saint-Fray, juste aux portes du sanctuaire de Lourdes, est animé. Alors il y a 114 personnes malades, accompagnées de 150 hospitaliers adultes, mais également 130 jeunes hospitaliers qui sont arrivés vendredi soir. Il y a également, c'est la grande nouveauté cette année, 13 familles qui ont posé leurs valises et qui sont là jusqu'à ce soir. Donc cet accueil Marie-Saint-Fray, il vit. Il y a plein de vie, de bruit partout, mais c'est très bien, les personnes malades sont ravies. Hier, Laurent Soudemont a passé sa journée dans les couloirs de Saint-Fray. On écoute tout de suite l'ambiance qui y régnait.
Allons à la source.
Première corde cassée du Pélé. C'est un grand moment.
Claire Bouchadaille, vous animez la musique pour le pèlerinage diocésain?
Oui, je suis dans le pôle animation. J'ai cassé une corde. On est toute une petite équipe là pour animer tout le long du Pélé les jeunes hospitaliers. La messe, les temps de louange le matin, la louange du dimanche après-midi. Enfin, on joue de la musique tout le week-end, en fait, pour donner de la joie autour de nous et glorifier Dieu à travers la musique.
Bon, et ça marche, parce que là, vous mettez le feu autour de vous.
Espérons. Le Saint-Esprit, en tout cas, nous aide. Et nous, on fait ce qu'on peut, et puis lui, il fait le reste.
Voilà, et on voit beaucoup de joie sur tous les pèlerins qui vous écoutent.
Bah super, ouais. Oui, c'est vrai que en plus il y a plein d'échanges de regards en fait pendant qu'on joue, pendant qu'ils passent devant nous. Et ça c'est très beau. On voit les sourires s'allumer, les mains s'animer, et c'est très beau.
Merci Claire.
Avec joie.
T'es merveilleux. Je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. À ta tendresse, je m'abandonne, car sûre est ta miséricorde, qui comme toi, c'est Seigneur, sauve et pardonne. Pas de salut que tu n'accordes. Tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Je ne peux vivre dans ta présence que ne me soit caché ta face. Venez pour toi, Seigneur, mon espérance. À tout jamais, je rendrai grâce pour tes merveilles.
Clémence, tu fais le service là auprès des enfants, tu es scout d'Europe, qu'est-ce que ça t'apporte ?
Beaucoup de choses, la foi, l'amitié,
la joie,
l'espérance, la joie, l'espérance.
Chantal, vous êtes venue avec vos petits-enfants, c'est une grande joie pour vous d'être là ?
Oui, c'est une immense joie et puis on voit cette jeunesse qui se lève. Et c'est le réveil de la France, je pense. Voilà, donc c'est la relève, c'est tout ce qu'on veut. Et on est heureux de voir que la génération de nos enfants, quand même, prend le relais. Voilà, donc c'est beaucoup de joie, avec beaucoup de joie que je suis là, avec toute cette jeunesse, parce que j'ai partie des vieilles vieilles, alors que je n'ai que 60 ans, je ne me sens pas vieille, mais en réalité, y a toute cette jeunesse est vraiment tonifiante, dynamique. On voit l'église de demain qui est là. Voilà.
Merci Chantal.
C'est aussi l'église d'aujourd'hui en fait. Oui.
Marie Vessière, vous avez organisé le week-end des familles, enfin le pèlerinage des familles. Est-ce que c'est une réussite ? Parce que quand on voit toute cette joie, toutes ces familles qui sont là.
Alors oui, c'est plein de surprises parce que beaucoup de familles nous rejoignent et toutes les familles qui sont présentes sont très touchées et très surprises par l'accueil qui nous est réservé ici à Saint-Fray. Et c'est vrai qu'il y a plein d'enfants partout, c'est vraiment magnifique de voir cette petite tranche d'âge là présente au Pélé et bien présente. Et voilà, il y a des chants là, ils attendent dans la joie le repas, l'heure du repas, qui se passe ici à Saint-Fray, au chaud, un petit repas servi, bichonné pour nous. Et je pense que c'est une vraie grâce qui nous est donnée de vivre ici. Et d'ailleurs, les familles sont touchées. Elles sont touchées, vraiment.
Parce que même à leur façon, ils amènent de la joie aux malades et aux personnes âgées parce qu'ils amènent beaucoup de vie dans cette maison.
Dans la maison, oui, c'est sûr. Les personnes âgées sont très heureuses. On voit leur grand sourire quand on a vu le groupe d'enfants là, avant la messe là, qui leur faisait coucou là, dans leur chaîne pour défiler... Dans leur fauteuil là pour aller à la messe, tout le monde se retournait vers les enfants, on leur faisait coucou, c'était vraiment très gai, très gai.
Merci Marie et bravo pour cette organisation.
Voilà, nous étions plongés dans l'ambiance qui règne à Saint-Fray, cet accueil qui est situé bien sûr près du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, où se déroule aujourd'hui le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. Et avec Anne-Rose Jankovic, nous vous proposons cette émission spéciale. Nous essayons de vous plonger, autant que faire se peut, dans l'ambiance qui règne. Et il y a beaucoup de nouveautés au sein de ce pèlerinage qui propose également de nouvelles dates, vous l'aurez compris, puisqu'auparavant, le pèlerinage de la Bigorre se situait plutôt en amont de la saison des pèlerinages. Et là, il se trouve en octobre et nous le vivons avec en particulier tout à l'heure, 10h30, venez à la messe à la basilique souterraine Saint-Pilis, et là vous y verrez tout le diocèse rassemblé, le diocèse de Tarbes-Lourdes. Quelle ambiance, Anne-Rose, hein ?
Oui, parce que toutes les réalités du diocèse seront présentes tout à l'heure. Alors il est encore temps de venir, hein, les auditeurs, là, ceux qui nous écoutent, qui sont en train de prendre leur petit café du dimanche matin, sautez dans votre voiture, rejoignez-nous. Alors si vraiment vous ne pouvez pas venir, eh bien grâce à Radio Présence, vous pourrez suivre la messe et vous pourrez entendre cette ambiance de joie, tout ce diocèse rassemblé avec toutes ces réalités. Vous l'avez dit, Mathias, alors il y aura les écoles, hein, 700 enfants sont attendus pour vivre cette journée. Alors avec ce matin la messe et puis cet après-midi, une rencontre tout à fait particulière entre l'évêque, Monseigneur Brouvet, et les enfants. Donc toutes les écoles, les services, les mouvements, les prêtres, les diacres, tout le diocèse diocèse va se rassembler d'ici une heure maintenant, un peu plus d'une heure.
Voilà, toutes les générations. Et pour participer à l'ambiance, il y a Gwenola et Charles qui sont dans ce studio. Bonjour Gwenola.
Bonjour.
Bienvenue. Et Charles.
Bonjour.
On vous a enlevé à votre service un peu, parce que vous étiez à Saint-Fré, vous aussi, l'un et l'autre. Hein, vous l'avez vécu, cette ambiance qu'on
oui,
a entendue. Oui. Alors, vous êtes là pour quoi ? L'un et l'autre, vous avez 16 et 17 ans. Gwenola, 16 ans. Charles, 17 ans. Vous êtes au service ? Ça signifie quoi, très concrètement, Gwenola ?
Eh bien, on s'occupe des personnes malades. On les pousse, on les emmène là où elles veulent aller. Et
pour Charles, c'est un service aussi.
Évidemment, mais voilà, on leur fait vivre ce pèlerinage. On leur permet de se déplacer, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a aussi une vraie relation qui se fait avec la personne malade. Une complicité, parce qu'on apprend à la connaître. On la suit tout au long du pèlerinage. Et donc, on apprend à discuter, à faire connaissance et on découvre des personnes qui ont beaucoup de choses à raconter.
Passer son week-end à donner de son temps, à être auprès des personnes en fragilité, malades, a priori pour un jeune de 16-17 ans, enfin, c'est pas forcément un programme habituel. Comment c'est venu pour vous ? Pourquoi est-ce que vous vous engagez comme ça ? Ce sont les parents qui vous ont poussé ou bien il y a aussi vous quelque part où vous vous êtes dit mais oui, ça peut correspondre à une aspiration personnelle ?
Ben, moi, pour ma part, je viens depuis quelques années avec les scouts parce qu'on nous propose de faire ce service-là. Mais au fur et à mesure des années, ça devient vraiment une joie de venir, on l'attend. L'année dernière, du coup, le pèlerinage a été décalé. Du coup, l'année dernière, on n'a pas pu vivre ce temps-là. Voilà, et c'est quelque chose qui nous a manqué. C'est quelque chose qu'on attend. On sait qu'on va vivre de belles expériences.
Gwenola.
Et ben moi, c'est pareil. Donc, je viens dans le cadre des guides. Et je pense que si j'avais pas été au guide, je serais venue dans le cadre de l'aumônerie aussi, parce que c'est vraiment que du bonheur.
C'est vraiment quelque chose à faire découvrir, même à vos camarades, ceux qui ne connaissent pas forcément, qui ne sont pas forcément impliqués comme vous l'êtes. C'est quelque chose que vous souhaitez partager, que vous partagez vraiment au retour. L'expérience, vous essayez de la transmettre.
C'est sûr que quand on nous demande, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end ? Voilà, on essaye un peu de partager ce qu'on a vécu, même si c'est pas toujours évident. Mais voilà, d'expliquer, de raconter les expériences qu'on a eues et de leur faire goûter un peu à ce qu'on a vécu pendant ce week-end.
Dans ce que vous vivez, il y a bien entendu le service que vous rendez à la personne qui vous est confiée. Et puis, il y a également une forme de vie spirituelle quand même au cours de ce pèlerinage que vous devez trouver, vous aussi, les jeunes. On réussit à la fois être des bras, c'est-à-dire rendre service, et aussi recevoir de la nourriture spirituelle. Ou bien on est totalement accaparé par le service. Charles ?
Ben c'est sûr que on est souvent avec nos malades, on les accompagne, mais il y a quand même, je pense que le pèlerinage est fait pour ça aussi. On a eu vraiment des moments déjà seulement entre jeunes où le matin on a un temps de louange tous ensemble, et puis vendredi soir aussi on a eu une veillée. On était seulement avec les jeunes, mais même avec les personnes âgées, quand on les accompagne à la messe, et enfin on est là aussi, donc on prie, et puis ce sont des personnes qui ont une richesse qui est énorme, donc forcément ça nous enrichit spirituellement aussi.
Oui, les temps spirituels, Gwenola, sont importants aussi.
Oui, bah oui, comme Charles disait, le matin, le soir aussi. Et oui, dès qu'on dépose nos personnes malades, on a le temps aussi, nous aussi, de prier, de se retrouver avec nous-mêmes.
Bon, eh bien, les jeunes, nous allons continuer à les entendre, Anne-Rose.
Oui, parce que d'autres jeunes vont arriver dans ce studio pour nous partager leur témoignage également. Alors, il faut dire que ces jeunes, ils sont bichonnés aussi. Ils viennent pour bichonner les personnes malades et eux-mêmes sont bichonnés. Il y a les personnes qui préparent le pèlerinage pour les jeunes hospitaliers de la Bigorre. Et puis, il y a aussi le service diocésain des jeunes qui encadre les collégiens. On leur apporte une vraie nourriture, hein. D'ailleurs, on l'entend bien dans le témoignage de Guénola et de Charles, il y a une vraie joie donnée par les jeunes et donnée aux jeunes. Là encore, Laurent Soudemont hier s'est promené dans les rues de Lourdes et dans le sanctuaire de Lourdes. Après la messe d'ouverture à la grotte hier, qui était animée par les jeunes, elle en a rencontré quelques-uns qui nous ont parlé de leur joie, de leur enthousiasme à servir et à prier à Lourdes.
Maïeul, tu viens de Tarbes, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vis le pèlerinage diocésain avec des personnes, des pèlerins, qui sont souvent en fauteuil roulant. Et avec ces personnes, on vit des actes, enfin on vit des moments de foi, des moments de prière, aussi des moments d'amusement. Voilà.
Alexandre, pour toi, en une phrase, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui ?
Eh ben moi aujourd'hui c'est un moment de, je dirais pas de détente, mais un moment de calme qu'on va vivre avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Ça va être, je pense, une amitié qui va se lier avec le pèlerin qu'on va accompagner pendant ce pèlerinage. Et ça va être des liens qu'on va tisser avec cette personne. Et je pense qu'à la fin de ce pèlerinage, eh ben, ces liens seront très forts.
Ah, que du bonheur. Du bonheur, t'as pu pousser les personnes âgées et malades sur les fauteuils roulants. C'est vraiment une expérience hyper enthousiasmante qui donne beaucoup de joie et de bonheur, parce que vraiment on apprend à connaître la personne et en croyant lui apporter quelque chose en la poussant, bon, on leur apporte vraiment quelque chose, mais elle aussi elle nous apporte quelque chose d'encore plus grand qui est leur joie, leur sourire, leur amour. Voilà.
Je vis un gros bonheur, je prends garde des malades, j'aimerais leur partager ma foi, j'aimerais les évangéliser, leur faire grandir dans leur foi. C'est vraiment un grand bonheur pour moi d'être ici. Voilà.
Quelque chose de formidable que j'ai jamais vécu avant, c'est la première fois que je fais le brancardier et j'aime beaucoup la personne où que je suis tombée, j'arrive vraiment à bien la connaître et voilà.
Et ben on vit beaucoup de joie, beaucoup d'émotions aussi, parce que moi c'est trop bien parce que j'ai une dame qui a très très peur de tout et on la console, on la motive et du coup ben maintenant elle est contente, elle est trop contente d'être là et c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à donner mais aussi à recevoir parce que les gens qu'on brancarde ils nous font beaucoup de joie aussi.
Bah de la joie à servir les autres. Et de l'amour avec les autres par le Seigneur qui nous rejoint.
C'est une très bonne expérience, on se fait toujours une bonne connaissance avec les personnes âgées, puis c'est vraiment une très bonne expérience à vivre pour les autres.
Comme Nicolas, c'est la quatrième fois que je fais ce pèlerinage, et comme il a dit, c'est une très bonne expérience et je continuerai à le faire toutes mes années.
C'est un très très beau week-end, je suis très heureuse d'être ici. On vit des choses très belles avec les malades, mais aussi on a un très bon groupe d'animation pour nous, les jeunes hospitaliers, et c'est très bien fait.
Ah oui, je suis très contente de faire ce service, et à chaque fois, retrouver les malades, c'est un vrai plaisir. Ils sont très agréables, très gentils, on a beaucoup à apprendre d'eux.
Tu gardes contact avec eux ?
Non, on ne garde pas contact, mais tous les ans, quand il y a des personnes qui sont assez régulières, et on les revoit, ils nous reconnaissent, et on les reconnaît, c'est très sympa.
Super, merci beaucoup Clarence.
Merci.
Gabi, qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui ?
Une merveilleuse journée. Avec tous ces jeunes, on s'amuse gentiment, mais comme des petites folles.
Vous êtes touchée par le service de tous ces jeunes hospitaliers ?
Ah oui, oui, oui. Tous ces jeunes, c'est une merveille. C'est notre avenir, c'est notre devenir. Alors je n'aime pas quand on parle mal des jeunes. J'aime pas du tout. Voilà. Mais c'est un très beau pèlerinage qui a très bien débuté. Avec ces jeunes, c'est formidable. Formidable. C'est magnifique, c'est très beau. On ne peut que remercier le Seigneur, on n'a rien d'autre à lui dire que merci.
Frère François-Xavier, on sent beaucoup de joie chez ces lycéens.
Eh bien, ils font connaissance avec les personnes qu'ils accompagnent. Au début, il y a bien sûr un peu de réticence, mais on remarque quand même qu'ils commencent à s'apprivoiser. Commence à échanger un petit peu et les regards deviennent joyeux et heureux. Ils chantent, ils sont avec les personnes. Oui, je pense que vraiment il y a des liens qui sont en train de se créer des beaux liens intergénérationnels. À la fois, les personnes plus âgées sont très heureux de pouvoir côtoyer des jeunes comme ça, et je pense aussi que les jeunes découvrent voilà, la sagesse, la joie.
Père Jean-Gabriel, vous accompagnez tous ces jeunes, est-ce que c'est de la joie pour vous ?
C'est une joie de les voir sourire avec les personnes âgées. C'est super beau, il se passe de très très belles choses devant cette grotte de Lourdes.
Le bonheur de donner de son temps, on le ressent à travers ce reportage signé Laurent Soudemont. Nous allons pouvoir libérer Gwenola et Charles, hein, qui font partie de ces jeunes au service, puisque vous avez encore sans doute à vous occuper de ceux qui sont confiés. On n'en a pas parlé d'ailleurs. Charles, qui vous est confié au cours de ce pèlerinage ? Vous êtes avec qui ?
Alors moi, je m'occupe de Martine, qui est une dame qui peut marcher, mais qui ne peut pas se permettre de rester debout toute la journée ou de faire de longues distances. Du coup, je m'occupe de la pousser, de l'amener aux activités qui sont prévues.
Et Gwenola ?
Alors moi, je m'occupe de Anne-Renée. Et j'étais beaucoup touchée par cette dame parce qu'elle a une histoire très touchante, très belle. J'espère que je la reverrai parce que je l'aime beaucoup.
Voilà, tout est dit. Quel beau moment. Nous allons marquer une pause musicale, Anne-Rose Jankovic. Hein. On va écouter de la musique parce que juste après, on reçoit un groupe de musique.
Le groupe de louanges recevait. Voilà. Donc on va écouter Glorious, qui est un peu le modèle de ces jeunes.
Je suis tout. Dieu m'a libéré.
présence à Mirande 104.2.
Et nous sommes au cœur d'une émission spéciale consacrée au diocèse de Tarbes-Lourdes et en particulier le diocèse en pèlerinage dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, puisque vous le savez maintenant, il y a de nouvelles dates. C'est en octobre que se déroule ce pèlerinage, en ce moment même, ce week-end même, avec de nouvelles propositions qui sont à la fois à l'adresse des familles, à l'adresse des collégiens, des petits, des enfants de tous âges, des lycéens et des jeunes pros, bref, tout le diocèse est vraiment invité à venir vivre, en particulier la journée d'aujourd'hui à Lourdes. Avec la messe tout à l'heure à 10h30, vous êtes, vous qui nous rejoignez maintenant, conviés à la messe à 10h30 à la basilique souterraine Saint-Pédis. Alors, nous sommes dans la joie, évidemment, grâce à Ono en particulier, à la jeunesse. Nous recevons 3 des 6 membres du groupe Recevez, qui a pris naissance dans le Haut-Adour, c'est-à-dire pas loin de Bagnères-de-Bigorre. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Nous sommes avec Benoît, Théotime et Aurélie. Voilà. Tous les trois, vous allez nous dire ce que vous avez comme instrument, vous, pour participer à ce groupe Recevez. Allez-y, Benoît, vous jouez de quoi, vous ?
Moi, je joue de la guitare et je chante.
Ah, et ensuite ?
Moi, je chante.
Aurélie chante. Et Théotime ?
Moi, je fais de la batterie et je chante aussi.
Bon. Ils chantent tous. Ils sont
on aurait bien aimé que Théotime amène sa batterie, mais il nous a dit oh, c'est compliqué, ça prend de la place. Donc, vous êtes venus sans vos instruments. Et votre participation à vous au pèlerinage de la Bigorre, quelle est-elle ?
Eh bien, on anime musicalement la session collégienne à Saint-Fray.
Oui. Donc vous logez à l'accueil Saint-Fray et vous participez à l'animation, à l'ambiance qu'on a entendue tout à l'heure, en début d'émission.
Oui.
C'est vous qui faites du bruit, c'est ça ?
Oui. Non.
Quel est le style du groupe Recevez, Benoît ?
On essaye de faire de la musique pour les jeunes, avec des sonorités pop, pour essayer d'évangéliser un peu notre département.
C'est un groupe de louanges ?
Voilà, un groupe de louanges.
Donc vous animez des veillées,
des messes, des veillées.
Particulièrement pour l'instant dans le Haut-Adour, mais vous commencez à organiser des veillées un petit peu partout dans le diocèse.
Oui, voilà, c'est ça.
Comment est né votre groupe ? Quel était le qui a initié ce groupe ?
Il est né. On a été à Paris il y a 3 ans.
À Paris.
À Paris Monial, il y a 3 ans, oui. Et donc Benoît et un autre garçon avaient eu l'idée de construire un groupe, puis ça s'est pas fait. Et il y a 2 ans, on est parti en pèlerinage sur les chemins pour rejoindre Lourdes, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on était 3 du groupe de maintenant. Et puis en fait, on animait chaque jour une petite messe entre nous. Et on s'est rendu compte qu'on avait tous plus ou moins un talent et qu'on pouvait se servir de ce talent pour évangéliser notre diocèse.
Évangéliser, concrètement, ça signifie quoi ? C'est chanter l'amour de Dieu, c'est partager votre foi, Théotime ? Il y a les paroles, sans doute, qui contribuent à l'évangélisation, c'est ça ?
Oui, c'est faire des textes qui touchent un peu les cœurs et qui font revenir un peu le monde dans les églises, parce qu'on en manque.
Oui. Le groupe s'appelle Recevez. Bon, quand on est en pèlerinage à Lourdes, on donne beaucoup. Quand on est jeune, on donne aux personnes malades, handicapées, de sa force hein, pour les accompagner, les pousser les fauteuils roulants. Vous, votre groupe s'appelle Recevez. Pourquoi porte-t-il ce nom ?
On a choisi ce nom parce que tout le monde peut avoir sa signification du nom, mais nous, c'était par le texte. On allait tous faire notre confirmation et c'est... Dans l'évangile, il y a écrit « Recevez l'Esprit Saint ». Et du coup, on a trouvé que c'était joli comme nom de groupe aussi.
Avez-vous une tournée de prévue, le groupe Recevez ?
Non, la prochaine soirée, c'est à Séméac le 8 décembre.
Ah, Séméac le 8 décembre.
Oui.
On peut tous venir ?
Oui, c'est pour tout le monde.
C'est où à Séméac, précisément ?
À l'église de Séméac.
Bon, rendez-vous le 8 décembre à l'église de Séméac.
Oui.
Et là, on pourra vraiment participer, vivre un temps de louange avec le groupe Recevez.
Oui.
Vous avez déjà prévu le programme pour cette soirée-là
Oui, on a un programme de vie qui est presque fait.
Qui dure combien de temps à peu près
Une heure et demie, ouais.
Et alors, expliquez-nous la respiration, un peu, comment ça se passe? Vous faites que chanter ou bien il y a aussi des textes qui sont proposés?
Alors, on commence, on fait en loup, donc c'est de la musique qui bouge pour danser. Et après, au bout d'un moment...
On danse dans l'église?
Oui, on danse dans l'église.
Bon, voilà.
Et au bout d'un moment, il y a Théotime ou moi qui prenons la parole et on témoigne sur le groupe Recevez, sur ce qu'il apporte dans notre vie. Et après, on passe sur un moment calme de prière. Et après, on repart dans la joie.
Et justement, qu'est-ce que ça apporte dans votre vie? Vous êtes collégien ou lycéen, peut-être déjà. Qu'est-ce que ça apporte dans votre vie de faire partie de ce groupe Recevez, de chanter pour les autres, la louange? Aurélie,
ça apporte beaucoup de choses. Enfin, je vois, moi, au lycée, ça change énormément de choses. Le matin, je me lève et des fois, je n'ai pas nécessairement envie d'aller au lycée. Et puis, je me dis... Jésus, il est avec moi, donc je peux y aller, et puis il va m'aider si ça ne va pas dans la journée, et voilà.
Vous arrivez à en parler au lycée, au collège?
Oui. Oui, au début, ce n'était pas facile, mais maintenant, quand on nous pose des questions, enfin moi, quand on me pose des questions, je réponds et je dis oui, voilà. Moi, je fais partie d'un groupe, je loue le Seigneur. Et...
Parce qu'on imagine que vous avez des soirées de répétition, que vous vous retrouvez, parce que quand on voit la qualité de votre travail, on se dit que certainement vous retrouvez régulièrement pour travailler ensemble. Comment ça se passe?
Eh bien, on se retrouve tous les lundis au Carmel de Bagnères, où du coup, on répète ce qu'on doit faire plus tard. Par exemple, là, pour le 8 décembre, on répétera les lundis et on refera le programme.
C'est-à-dire que si un copain vous invite au ciné le lundi soir, vous vous dites non, moi je peux pas, j'ai louange avec Recevez.
Oui. Ouais. Oui,
et ça, c'est perçu comment dans votre entourage?
Ça, mes amis, ils me regardent mal à ce moment-là. Quand même.
Ah je bon dis.
Oh. Oui, parce que c'est pas... Enfin,
c'est pas commun.
Ouais, voilà. Ah, voilà.
Vous êtes missionnaire, en fait, quelque part, grâce à ce groupe Recevez.
Oui.
Vous savez que le pape, aujourd'hui, vous a dit, vous, les jeunes, d'être en mission. Hein, oui. Il l'a écrit pour aujourd'hui, justement. Donc, merci beaucoup. Le groupe Recevez sera en concert le 8 décembre.
À Séméac, à l'église de Séméac.
Voilà. Donc, vous êtes nombreux. Comme ça, pour ceux qui ignorent encore ce que vous fait vivre le groupe Recevez, ben, vous le découvrirez à ce moment-là. Merci à tous les trois. On vous souhaite vraiment un bon pèlerinage. Nous recevons dans cette émission, dans quelques instants, Monseigneur Nicolas Brouvet, l'évêque de Tarbes et Lourdes, parce que c'est son pèlerinage, c'est le pèlerinage de son diocèse qui reprend, nous l'avons dit, possession d'un sanctuaire diocésain, certes international, mais diocésain. Nous en parlons dans quelques secondes avec Monseigneur Brouvet. En attendant d'interroger Monseigneur Brouvet, il faut vous redire à vous tous qui nous écoutez que vous êtes invités à 10h30 à la messe.
Nous vous attendons.
Oui, elle est à 10h30, elle se déroule à la basilique souterraine Saint-Pilice. Et donc cette messe, c'est celle qui rassemble quelques 4000 personnes venant de tout le diocèse. Et à ce moment-là, on vit un moment unique quand même dans ce diocèse, puisqu'il n'y a pas tant d'occasion que cela de se réunir à autant, surtout dans une église comme celle-ci, la basilique souterraine Saint-Pilice. Donc vous êtes invités, venez nombreux. Monseigneur Brouvet, bonjour.
Bonjour Mathias.
C'est vous qui présiderez cette messe, hein, la basilique souterraine, dans quelques minutes, dans 25 minutes, dans une heure à peu près. C'est magnifique de voir que les nouvelles propositions au sein de ce pèlerinage, nouvelles dates, nouvelles propositions, en fait, reçoivent un vrai écho. On voit des familles, les jeunes sont nombreux. Il y a toute la diversité d'un diocèse. Hein ?
Oui, d'abord, je salue le groupe Recevez, là, qui est là dans le studio. Je suis ravi qu'il soit là, qu'on soit là ensemble. Parce que, en fait, ce sont des jeunes qui nous redisent combien la louange est importante. Combien il est important de savoir juste dire au Seigneur qu'on l'aime, le louer pour la journée qui commence, dire toute sa joie d'être avec lui, dire son action de grâce pour tout ce qu'il nous donne. C'est beau que ce soit des jeunes qui nous réapprennent cela, parce que on peut être très très vite tenté de perdre un peu l'espérance, de dire tout va mal dans notre monde, et que des jeunes nous disent il y a d'abord justement à recevoir la grâce du Seigneur. Et puis juste la joie d'être avec lui. Et donc, moi, je les remercie pour ça.
C'est la journée mondiale de la mission, justement. Et le pape invite les jeunes à porter la mission.
À porter la mission, oui. Parce que c'est, évidemment, c'est le synode des jeunes en ce moment. Et donc, il y a un appel à tous ces jeunes. Nous, on se réjouit justement que dans ce pèlerinage, les jeunes font deux choses. Hein. Ils nous invitent à la louange. Là, je sors d'une prière de louange du matin avec, avec des jeunes hospitaliers. Et puis, ils nous parlent du service aussi. Je crois que la joie et le service, c'est les fondements de notre Église pour aujourd'hui et pour demain. C'est l'avenir de notre Église. C'est la joie d'être à Dieu et puis servir nos frères. On pourrait, au fond, résumer notre vie chrétienne comme ça.
Ils ont un zèle, une audace, ces jeunes, qui nous poussent un peu à chambouler nos habitudes dans l'Église aussi, Monseigneur.
Ben oui, parce qu'ils arrivent avec à la fois leur générosité et puis leur souci d'être vrai, d'être authentique, d'être en vérité. Ils ne veulent pas des choses très compliquées. Hein. Ils veulent juste trouver un Dieu qui les aime et puis nous parler de cela.
Vous avez vous-même donc vécu depuis vendredi ce pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. Vous pourriez nous dire un peu comment personnellement vous le vivez ?
Bah, écoutez, moi, la grande joie que j'ai comme évêque, c'est de pouvoir faire le tour de tous les groupes. Et donc ça reflète mon ministère de communion dans le diocèse. Donc c'est important que je puisse aller de l'un à l'autre et puis vivre un moment. Alors c'est avec les malades au cours de la messe d'hier matin, là, du début du pèlerinage. Mais c'est vivre donc ce moment de louange, c'est être tout à l'heure avec les enfants. Je serai aussi avec les catéchumènes. Évidemment, il y a cette messe. Là, maintenant, je suis ici. Au fond, moi, j'ai la chance d'aller un petit peu partout, de donner une parole d'encouragement. Puis on a eu ces très beaux moments hier avec les équipes d'animation paroissiale. Qui était comme, non pas une conclusion, mais enfin, en tout cas, une étape importante dans le travail qu'on fait avec toutes ces équipes. On nous a réunis ensuite un dîner avec les jeunes collégiens. Donc, ce qui est très beau, c'est de voir toute cette église qui est en marche, qui a du dynamisme à revendre, qui croit en l'avenir, et puis qui est juste heureuse de se rencontrer pendant ce pèlerinage.
Une précision sur ce que vous avez demandé aux équipes d'animation pastorale. Vous leur avez d'ailleurs donné un petit livret spécialement conçu pour eux. Et c'était un moment de fête, hein, de joie hier, mais il y avait également un envoi en mission.
Oui, parce que c'était un moment récapitulatif de séance de travail qu'on avait eue sur qu'est-ce que c'est qu'une équipe d'animation paroissiale. Et puis comment est-ce qu'elle peut, dans sa méthode, à la fois améliorer la qualité de son travail et puis surtout susciter des collaborations nouvelles, hein, parce qu'il y a dans certaines équipes une sorte de vieillissement et avec une difficulté à se renouveler. Et donc l'idée, c'est que autour des prêtres, on ait ces équipes qui portent le souci de la mission, le souci de toute la vie paroissiale, pas simplement rendant un petit service une fois de temps en temps, pas simplement en s'occupant d'un aspect de la vie paroissiale, mais vraiment de porter avec le prêtre l'ensemble de la mission de la paroisse. Et ça, moi j'appelle vraiment des gens de 30 ans, de 40 ans à y participer, parce que je crois que c'est un très beau lieu d'abord d'engagement, et puis ensuite parce qu'on a besoin du témoignage de cette tranche d'âge qui nous manque un peu dans notre église diocésaine. On a besoin de leur dynamisme, on a besoin de leur expérience, de parents, de professionnels. Ça serait embêtant qu'une église ne vive plus qu'avec des personnes retraitées.
Avec des jeunes aussi, hein, il y en a dans ce studio.
Mais entre les deux, justement, alors il y a un grand dynamisme des jeunes. Et ce qui nous manque quand même, c'est la tranche d'âge de leurs parents, qui sont presque moins nombreux qu'eux dans notre église. Voilà. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a des engagements professionnels, parce qu'il y a la vie nous réserve des surprises, parce que le dimanche matin, on a autre chose à faire qu'aller à la messe. Bon, mais je crois que quand même, nous, on a envie d'ouvrir nos portes à cette tranche d'âge parce qu'on en a besoin dans l'Église.
Alors justement, ce pèlerinage, une des nouveautés de ce pèlerinage cette année, c'est de proposer à cette tranche d'âge précisément d'être présente depuis vendredi soir jusqu'à ce soir, puisque les familles sont invitées à vivre ce pèlerinage en s'installant à l'accueil Marie-Saint-Fray. Ça, c'est une grande nouveauté, c'est peut-être important de le souligner.
Oui, alors on a voulu enclencher, disons, une une dynamique du côté justement des parents, des jeunes qui viennent. Imaginez-vous que vous avez 120 hospitaliers, donc jeunes hospitaliers entre la troisième et puis le lycée. Vous avez 65 collégiens et puis vous aurez là 200 ou 250 enfants tout à l'heure. Voilà. Et donc l'idée, c'est où sont les parents ? On aimerait bien que les parents rejoignent leurs enfants. Alors, vivent quelque chose entre eux aussi en couple, mais vivent quelque chose aussi avec leurs enfants. Et donc, voilà, on aimerait bien que dans les années qui viennent, eh bien, cette tranche d'âge nous rejoigne. Donc, effectivement, on a fait hier une après-midi de pèlerinage pour ses parents, avec la visite du Lourdes insolite. Parce que
les coulisses, en fait.
Les coulisses, c'est-à-dire qu'il y a des aspects du sanctuaire qu'on ne voit moins quand on est là en pèlerinage. Et on a voulu, par exemple, aller au bureau médical, parler avec le médecin qui s'occupe de la question des miracles. Ils sont revenus enchantés parce que c'était passionnant. Mais ils ont visité aussi des installations techniques du sanctuaire. C'est intéressant aussi de voir. Ils ont regarder un petit peu un certain nombre de chiffres sur le sanctuaire, un certain nombre de choses qu'on ne raconte pas parce que simplement ça fait partie de notre vie. Et je crois aussi c'est beau que les Bigourdans connaissent mieux leur sanctuaire.
Justement, on peut inviter Mgr Brouvet, tous ceux qui nous écoutent là et qui n'avaient peut-être pas dans leur projet de venir à Lourdes aujourd'hui et tout à l'heure à la messe, on peut les inviter à venir.
Ah bah oui, vous pouvez prendre votre voiture, arriver à Lourdes, descendre la basilique souterraine. Vous pouvez aussi nous rejoindre à l'Angélus juste après la messe, c'est-à-dire vers midi moins le quart. Vous pouvez nous rejoindre simplement pour le pique-nique. Écoutez, il fait beau, donc profitez-en. Même si vous n'avez pas été à la messe, on peut se retrouver pour le pique-nique. Il y a le chapelet un petit peu plus tard dans l'après-midi. Il y a une rencontre avec les enfants à 14h. Voilà, on peut avoir un petit bout de pèlerinage et puis rejoindre. Moi, je dis à tous, soyez les bienvenus.
Oui, en plus, la journée s'y prête, mais le temps est là, au beau fixe, donc tout va bien. Venez.
Et puis les démarches de pèlerinage qu'on avait l'habitude de faire les autres années plutôt le matin, et puis parce que la messe c'était l'après-midi, et bien cet après-midi vous pouvez aller à la grotte déposer un cierge, vous pouvez aller aux piscines, vous pouvez vous recueillir, vous pouvez aller vous confesser, enfin toutes les démarches de pèlerinage habituelles sont possibles cet après-midi. C'est un pèlerinage, c'est un temps de prière et c'est aussi un temps de fête, on l'entend bien depuis
bien
ce
sûr.
Matin.
Il y a par exemple en ce moment à Lourdes le pèlerinage des apprentis orphelins d'Auteuil, ils sont 3000. C'est beau aussi de voir tous ces jeunes qui viennent d'un peu partout en France. Il y a 150 maisons des apprentis orphelins d'Auteuil en France, et notamment dans les banlieues. Et je trouve que c'est formidable de voir le travail qui est fait avec des jeunes qui ne sont pas d'ailleurs forcément catholiques. Hier, j'ai rencontré un garçon qui s'appelait Mohamed, là, qui est venu me demander une photo. Voilà, c'est beau de voir cette proximité. Tous ces jeunes qui sont là, je crois que ça fait partie de la grâce de Lourdes. On vient pas que pour soi, mais on vient aussi pour être avec les autres, et des autres totalement inattendus, enfin qu'on n'aurait pas espéré voir, et puis voilà, ils sont là.
Merci Mgr Brouvet, on vous laisse repartir. C'est vous qui présidez la messe de tout à l'heure, évidemment, à 10h30, hein. Et d'ici là, vous avez quand même un peu de programme également, toujours des rencontres.
Voilà, et puis il y a toutes les rencontres informelles qu'on peut faire et qui sont toujours à la fois inattendu et formidable. Merci aussi et bon dimanche à tous, bonne journée.
Merci.
Merci.
On vous retrouve tout à l'heure pour la messe qui sera célébrée à Saint-Pie-X. Et nous continuons maintenant cette émission spéciale. Je vous rappelle que nous sommes au cœur d'une grande émission en direct qui parle de quoi ? Eh bien, du pèlerinage de la Bigorre à Lourdes, avec ses nouvelles propositions, avec également ses nouvelles dates, puisque maintenant le pèlerinage de la Bigorre est en octobre. Et il a démarré ce vendredi, il se termine cet après-midi. Nous avons reçu de la jeunesse, nous avons reçu à l'instant Mgr Brouvet, l'évêque de Tarbes-et-Lourdes. Et il y a du programme encore en vue, il y a des invités encore qui vont venir dans ce studio.
Nous attendons les sœurs de Cantaous qui vont venir nous parler de leur jubilé, 175e anniversaire, et puis d'une exposition qui est proposée à tous les diocésains à Cantaous. On les retrouve dans quelques instants, mais avant on va faire une petite pause musicale.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96. Vivre en restant fragile,
sans carapace pour me protéger. Accepter d'être vulnérable pour être vraiment humain. Me souvenir dans le silence que je ne suis maître de rien. Et pourtant, déplacer des montagnes, donner beaucoup d'amour avec un peu de foi, solide et sans retour. Déplacer des montagnes, donner beaucoup d'amour avec un peu de foi, solide et sans retour. Vivre avec soi-même auquel on tient, et découvrir le vrai réel, le sens de ma vie enfin. Goûter les joies, goûter les peines, nos vies ne tiennent à presque rien. Et pourtant, déplacer des montagnes, donner beaucoup d'amour avec un peu de foi, solide et sans. Déplacer des montagnes, donner beaucoup d'amour avec un peu de foi, solide et sans retour.
Présence dans la cité mariale 96.
Nous sommes en émission spéciale à l'occasion du pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. Et ce pèlerinage de la Bigorre à Lourdes, vraiment, je vous assure, il se passe très bien. Il y a vraiment toute la diversité diocésaine présente, de la jeunesse, nous l'avons entendu. Monseigneur Brouvet, l'évêque de Tarbes et Lourdes, est enchanté de vous d'aller de groupe en groupe pour voir tout son diocèse. J'ai presque envie de dire qu'il s'incarne quelque part à travers un pèlerinage annuel à Lourdes. Et cette année, il y a de nouvelles propositions avec une capacité à fédérer en particulier cette jeunesse qui est au service des personnes malades. Dans quelques instants, nous recevrons trois sœurs de Saint-Joseph de Tarbes. Cette belle congrégation née dans le diocèse il y a 175 ans. Eh bien, pour ce jubilé, nous aurons l'occasion d'en parler. Nous avons trois sœurs qui nous parleront de cette belle congrégation. Et nous avons en ligne pour le moment
David Torchala.
David.
Oui.
Vous êtes notre
bonjour,
reporter.
Je vous vois bien.
Oui. Alors.
Oui, bah écoutez, je suis là. Il y a pas mal de bruit autour de moi.
Des enfants, quoi.
Je suis au pied de la Vierge couronnée. Mais je suis au milieu de. Je ne sais pas combien il y a d'enfants là. Mais il y en a un paquet, écoutez, je suis au pied de la Vierge couronnée sur l'esplanade du Rosaire et j'ai avec moi plein de bannières. Il y a l'école de Massadiel de Lourdes qui est là, il y a les enfants de l'ensemble pastoral du sud-est de Tarbes et Prémontré. Il y a aussi Séméac et Oreillan, voilà. Ici, donc, tout le monde attend et voilà pour arriver à rentrer à la messe. Il y a aussi les scouts de France aussi qui sont là. Voilà.
Il va falloir
vraiment
leur dire,
un
David,
bon
de se calmer.
De rassemblement.
D'ici une demi-heure.
Et là, c'est l'euphorie.
Oui, d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, il faudrait qu'il soit un peu plus calme, je pense.
Ah oui, mais vous savez, là, pour l'instant, il y a un grand soleil sur le sanctuaire. Et puis, chacun est content de se retrouver. Et puis après, ils vont pouvoir rentrer ainsi dans la démarche de pèlerinage.
Bon, merci beaucoup pour cette plongée dans l'ambiance de la jeunesse et en particulier des enfants des écoles qui arrivent en ce moment même à Lourdes pour vivre la messe tout à l'heure à 10h30.
Il n'a pas parlé des bannières, mais alors les écoles ont confectionné des bannières à l'effigie de leur saint patron. Donc ça va être magnifique tout à l'heure à la messe. Nous verrons toutes les bannières avec les Jeanne d'Arc, Vincent, enfin tous les patrons, tous les saints patrons des écoles catholiques du diocèse.
Merci David, à plus tard.
À plus tard, merci.
Et nous recevons dans ce studio Sœur Maria Teresa, Sœur Geneviève et Sœur Fatima. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue. Alors, vous êtes Sœur de Saint-Joseph de Tarbes. On vous appelle Sœur de Cantaous, hein, communément. Parce que Sœur Geneviève, vous qui vous occupez justement de la maison mère, la maison située à Cantaous, c'est là qu'est née la congrégation ?
Oui, c'est à Cantaous qu'est née la congrégation.
Il y a combien de temps ?
Alors, c'était en 1843. Six jeunes filles du plateau, du village de Cantaous, ont senti l'appel du Seigneur. Et au début, elles ont pensé à la vie du Carmel. Mais les parents, les familles leur ont dit, mais pourquoi ne vous occupez-vous pas de nos enfants et des malades? Et elles ont accepté.
Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui.
Et voilà.
175 ans après, 175. Bravo mes sœurs, vraiment, c'est magnifique. Sœur Fatima, vous êtes secrétaire générale.
Il paraît.
Oui, il paraît. Vous avez un petit accent. Vous venez d'où, Sœur Fatima?
De l'Inde.
Ce qu'il faut dire, c'est que cette congrégation née dans le diocèse a essaimé, comme on dit. Et aujourd'hui, des sœurs s'engagent un peu partout dans le monde et portent le nom de sœur de Saint-Joseph de Tarbes.
Oui.
Oui. Vous-même, ma sœur, si on remonte votre histoire personnelle, pourquoi vous êtes engagée dans cette congrégation? C'est une grande histoire.
Non, c'est... Oui. Bon, d'abord, c'est un appel. C'est vrai, mais j'ai fait mes études avec nos sœurs de Saint-Joseph de Tarbes. Et grâce à une sœur qui m'a enseignée pendant 5 ans, j'étais avec elle, toujours elle m'a dit, tu dois me remplacer dans la congrégation. Et j'avais la grâce qu'elle était vivante jusqu'à ce que j'ai fait ma première profession. Elle est morte la même année. Et toujours, je demande l'aide de cette sœur. Elle m'aide.
Vous êtes aujourd'hui au sein du pèlerinage de la Bigorre, hein, qui se vit tout ce week-end. Vous êtes heureuse d'être une composante internationale de ce diocèse, ma sœur.
Si.
Oui. C'est un beau moment que nous vivons, ce pélé de la Bigorre,
oui,
d'un diocèse
oui,
rassemblé.
Oui, oui, oui.
Et alors vous voulez dire à tout ce diocèse qu'il y a la congrégation, qui a 175 ans, elle est née là, et qu'elle porte finalement le diocèse partout dans le monde.
Si.
Ce qu'on oublie de dire, c'est que Tarbes est connue dans bien des endroits qu'on ignore, nous, là, au moment où on se parle. Tarbes, parce que c'est vraiment le nom de cette congrégation un peu partout dans le monde.
Si.
Oui.
Oui. Dans nos pays, on nous connaît comme Saint-Joseph de Tarbes.
Alors, le monde entier vient à Lourdes pour le sanctuaire de Lourdes, mais grâce à vous, le diocèse de Tarbes et Lourdes va dans le monde entier,
oui,
en
oui,
fait,
oui,
ma
oui.
sœur.
Oui.
C'est merveilleux. Merci.
Sœur Maria Teresa, bonjour.
Bonjour.
Oui. Alors vous, quel est votre rôle dans la congrégation?
Bon, je suis partie du gouvernement régional et je prête le service de secrétariat en plus d'autres à la maison mère.
Vous venez d'où?
De Venezuela.
Et votre histoire personnelle avec les sœurs de Saint-Joseph de Tarbes. Comment un jour, au Venezuela, on s'engage pour devenir sœur de Saint-Joseph de Tarbes?
Bon, cette histoire remonte à quand j'étais aussi petite. Hein, j'étais avant nous, au Venezuela, on était très nombreuses les sœurs. Et c'était les sœurs qui nous faisaient la classe. Et une de mes sœurs, concrètement la sœur qui était quand j'avais 10 ans, c'était quarto grado,
et je ne sais pas ce que correspond ici en France. Elle est une grande missionnaire et elle nous inculquait cet amour de mission, de l'amour de Jésus, d'étendre le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et alors je voulais devenir missionnaire. Et je me rappelle que je lui ai dit, je veux être sœur, mais pas ici. Il me dit, si, pourquoi? Parce que je veux être missionnaire. Il me dit, mais nous sommes missionnaires, on est. Alors, elle me parlait de l'Inde, me parlait de les autres endroits où la congrégation était. Et c'est comme ça que j'ai commencé, petit à petit. Bon, il y a eu des hauts et des bas, comme tout, quand on grandit. Mais le Seigneur a vaincu. Et je suis là.
Vous vivez une année de jubilé. Alors, jubilé dans tous les sens du terme. Si. Jubilé dans le sens de l'Église. Hein. C'est une année importante que vous vivez, 175 ans. Et puis, on jubile, on vous sent heureuse de fêter cet anniversaire. Hein, dans ce sens-là aussi. Sœur Geneviève, à Cantaous, comment vous avez marqué particulièrement ces 175 ans?
Ces 175 ans, nous les avons marqués d'abord par l'internationalité. Et nous avons eu une assemblée des sœurs de tous les pays, c'est-à-dire des...
Combien de pays?
Il y a 15 pays. C'est pas les 15 pays qui ont été représentés, mais presque. C'est-à-dire, nous avons eu une assemblée où les jeunes qui étaient en mission de partout, hein, qui étaient en mission en Europe, de l'étranger, et qui étaient en mission... ont été invités, et toutes les maîtresses de formation de tout l'Institut.
Ça représente combien de personnes
700. Nous sommes un peu plus de 700 dans le monde.
Mais 719, mais depuis hier, on a augmenté par 6.
C'est la fête.
C'est-à-dire que
Uganda.
Oui, Uganda. 6 sœurs ont fait leur vœu.
Premier vœu.
À quel endroit?
À Ouganda. Ougandaises aussi.
Des Ougandaises. Donc la mission, vous voyez où elle mène, très loin. Et donc, on était en train de dire comment avez-vous signifié cette fête, ces 175 ans, ce jubilé. Il y a également un espace dédié à Cantaous pour montrer l'histoire de cette congrégation.
Oui, ça a été la deuxième chose. Ça a été l'organisation d'un musée. Il y a très longtemps que nous le désirions, mais bon, le jubilé a été l'occasion. Et nous avons voulu rassembler un peu la mémoire de ces 175 ans d'existence de la congrégation au service de la mission. Et nous avons été pour ça aidés par Monsieur Cabidoche, qui l'a conçu. Monsieur Cabidoche, qui l'a conçu professionnellement, hein, avec nous.
Donc c'est un musée qui montre quoi en fait? Qu'est-ce qu'on y voit dans ce musée?
Dans ce musée, on voit la naissance de la congrégation, sa croissance, ses difficultés à un certain moment, parce que en 1903, nous avons vécu une période difficile qui a duré plusieurs années, presque 40 ans, puisqu'on a fermé 97 communautés en 2 mois, en 1903. Et puis, on voit l'expansion missionnaire, et puis on y voit aussi la formation dans les différentes cultures. Voilà, c'est un peu le résumé de ce que nous montre ce musée.
Et on rappelle que votre charisme, c'est bien l'éducation et le service des plus démunis.
Voilà.
Quand vous parlez de formation, vous parlez d'enseignement, notamment.
Non, de la formation à la vie religieuse. À la vie religieuse.
Mais vous avez un vrai charisme pour l'enseignement également.
Ah oui.
C'est votre apostolat. Donc oui, en fait, partout où vous êtes, il y a une école. C'est peut-être important aussi de le redire peut-être pour les diocésains qui ne vous connaissent pas, parce qu'ils ne sont peut-être pas encore venus à cette exposition.
Je pense que on doit être autour des 100 000 élèves dans le monde.
100 000 jeunes qui vous sont confiés.
Depuis le petit
jusqu'au plus grand.
Université.
De la maternelle jusqu'à l'université.
Nous avons deux universités en Inde.
Et vous-même, mes sœurs, vous avez enseigné ?
Si.
Oui. Sœur Fatima devait être une maîtresse sévère.
Non, je ne sais pas.
Mais toujours le sourire. Oui. C'est formidable, des institutrices avec le sourire tout le temps.
Oui.
Alors, cette exposition, comment peut-on la voir ?
Écoutez, vous pouvez venir à Kanthaus, au village.
Tous les diocésains qui nous écoutent en ce moment peuvent prévoir, durant les vacances, durant ces vacances qui commencent ou dans les mois à venir, c'est une exposition permanente.
C'est une exposition permanente. Il suffit de vous présenter au standard du couvent et vous pouvez rentrer et visiter.
Voilà, donc c'est une invitation, une large invitation pour tous les auditeurs.
Voilà, pour ceux qui ne sont jamais allés à Kanthaus, vraiment c'est une belle occasion parce que c'est beau quand même.
Exactement,
hein,
c'est magnifique. C'est beau. C'est magnifique par là.
Tout est dit. Vous aviez quelque chose à ajouter, mes sœurs ? Qu'est-ce que vous vouliez ? Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose,
sœur Maria Teresa ? Quand vous parliez de Tarbes, c'est présente dans le monde entier. Et quand nos anciennes élèves, parce que La congrégation, elle vive notre fondation, ce qui nous appartient à niveau de tous les élèves. Elle le vive vraiment. Il y a dans nos écoles la semaine de Saint-Joseph de Tarbes. Ils font des concours, ils font beaucoup de choses. Alors pour elle, la plus grande joie quand elles ont l'occasion de voyager, c'est venir et connaître la maison mère. Et c'est impressionnant. Et pour elle, c'est quelque chose qui les tient à cœur. Et même dans mon pays, il y a des rues qui s'appellent Saint-Joseph de Tarbes. Et près de cette rue, il y a un grand building qui dit Saint-Joseph de Tarbes. Il y a une banque, il y a beaucoup de choses. Et la banque, c'est la banque Saint-Joseph de Tarbes, que ce n'est pas à nous. Alors on croit que c'est bon. Mais Tarbes, c'est un mot qui est vraiment connu partout.
Grâce aux sœurs de Saint-Joseph de Tarbes.
Merci de porter notre diocèse au-delà de nos frontières.
Nous avons vécu un beau moment avec vous, mes sœurs, sœur Maria Teresa, sœur Geneviève et sœur Fatima, et qui sont venues avec nous quelques instants fêter les 175 ans de la naissance de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Tarbes. Allez à Kanthaus, hein, vraiment. Hein, merci, mes sœurs.
Merci à vous tous.
Nous continuons cette émission spéciale en direct de Lourdes. Parce que nous vivons tous ensemble le pèlerinage de la Bigorre et nous essayons de vous montrer toutes les composantes d'un pèlerinage diocésain qui se déroule dans son sanctuaire diocésain. Parce qu'on oublie trop souvent de dire que le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, eh bien, c'est non seulement un sanctuaire international, mais d'abord et avant tout un sanctuaire du diocèse de Tarbes-Lourdes qui est dirigé par Mgr Nicolas Brouvet et qui présidera tout à l'heure, à 10h30, la messe à laquelle vous êtes conviés.
Voilà, et c'est beau de voir à quel point les Bigourdans sont heureux aujourd'hui de... Eh bien...
Ah oui, nous entendons en ce moment d'ailleurs les répétitions. Oui, vous vouliez dire Anne-Rose, c'est beau de voir...
De voir à quel point aujourd'hui les Bigourdans sont heureux de venir dans leur sanctuaire, hein, parce que c'est un petit peu leur propriété qu'ils partagent avec le monde entier. Mais quand même, les Bigourdans sont assez fiers de dire aujourd'hui, on est chez nous, la petite Bernadette, elle est Bigourdane comme nous, et on vient aujourd'hui à sa suite prier devant la Sainte Vierge. Voilà, ça c'est important pour les Bigourdans, c'est leur patrimoine, hein, faut pas l'oublier.
Sont arrivés dans ce studio Fabienne Julian, qui nous parlera de son engagement auprès de la jeunesse, au niveau des aumôneries, mais également auprès du prieuré Notre-Dame-des-Neiges, par exemple. Bonjour.
Bonjour.
Et puis également Fabien Jouanolou, qui est là. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Là, vous êtes jeune agriculteur et vous êtes notamment un peu la cheville ouvrière du MRJC, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne.
Oui, c'est ça.
Ouais. Bon, bienvenue à tous les deux. Nous étions en train de dire que vraiment vous êtes encouragés. Il reste une demi-heure, 25 minutes pour venir à Lourdes. Hein. Je suis sûr que c'est à portée de voiture pour vous, là où vous êtes, éventuellement. Donc venez à la messe. Sinon, vous la vivrez en direct avec nous, puisque nous la retransmettons en direct sur cette antenne. Fabienne Julian, c'est quand même très très beau de voir toute cette jeunesse, de voir tous ces adultes, ces personnes malades, en souffrance, qui constituent finalement le peuple de Dieu au niveau du diocèse. Et nous vivons ça aujourd'hui, c'est le Pélé de la Bigorre. Vous aimez participer, vous, au Pélé de la Bigorre ?
Ah oui, je trouve que c'est un rassemblement qui nous remet en joie, qui nous redynamise aussi dans nos actions et dans nos engagements. Et ensuite de voir tout ce rassemblement de ces jeunes qui font la fête aussi. Donc ça fait que du bon au cœur.
Ça vous redynamise dans vos engagements vous-même. Vos engagements, quels sont-ils, Fabienne, Julien ?
Alors aujourd'hui, je suis avec Sœur Albert-Marie, responsable de l'aumônerie de l'enseignement public des collèges sur Tarbes. Et je suis aussi engagée donc à la fraternité du prieuré Notre-Dame-des-Neiges.
Oui, fraternité qui est des prémontrés, qui est bien sûr adossée à la communauté des prémontrés présente à la Loubert. Votre responsabilité au niveau de l'aumônerie, ça n'est pas simple hein, aujourd'hui de porter la parole, de porter l'évangile au cœur des établissements scolaires et en particulier auprès des jeunes.
Alors non. Alors nous avons la chance de pouvoir contacter les catéchistes qui nous font le relais auprès des parents pour pouvoir leur indiquer qu'il y a une aumônerie, que c'est pas fini, ça se termine pas en CM2, il y a une suite, on peut continuer sa foi un peu plus longtemps, se cultiver et à partager avec d'autres. Et donc grâce à cela, on arrive quand même aujourd'hui à avoir des jeunes et un effectif qui est quand même conséquent. Suivant les années, c'est sûr que le nombre, je pense qu'on suit la natalité aussi. Donc il y a des années où c'est moins que d'autres. Mais là, cette année, ça a l'air d'être une bonne année.
Qu'est-ce que vous aimez, vous, Fabienne Julien, dans cette mission auprès des jeunes ?
Alors, la mission, d'abord, ça me fait rester jeune aussi, parce qu'aujourd'hui, je suis grand-mère quand même, donc c'est bien aussi pour moi. Et en plus, c'est vraiment de les accompagner. On voit la progression de ces jeunes, puisque j'ai la chance de les accompagner même des fois jusqu'au lycée. Certains restent jusqu'au lycée. Et donc, on voit l'évolution des petits qui arrivent tout timides, qui n'osent pas parler des fois, qui ne se connaissent pas aussi les uns les autres. Et puis, tout d'un coup, on les voit... oser prendre la parole, oser prendre leurs activités, oser développer leurs talents aussi et partager avec d'autres.
Il y a quand même des difficultés sans doute, hein, comme je le disais à l'instant, tout à l'heure, apporter quand même la parole de l'évangile dans des milieux de la jeunesse où on n'est pas forcément hyper réceptif.
Oui, alors la difficulté pour eux aussi c'est dans leur collège. Parce que ils disent on ne peut pas parler de notre foi, donc ils n'osent pas en parler. Alors on les encourage à inviter à des moyens, dans les activités aussi qu'ils peuvent partager avec des copains, on leur dit venez, invitez, qu'ils viennent voir une fois. Donc ça peut marcher, certains viennent et ils restent. Et d'autres, ne sont que de passage, mais c'est vrai que c'est difficile pour eux d'en parler. Et encore plus aujourd'hui, même pour nous personnellement, parce que de contacter les établissements scolaires, la porte nous est fermée. Donc on ne peut même pas mettre une affiche dans un collège souvent. Donc c'est vrai qu'on ne fait que du bouche à oreille pour l'instant.
Sans doute parfois êtes-vous interpellé du genre « mais à quoi ça sert tout ça ? Ça ne sert à rien ?» Qu'est-ce que vous avez à répondre ? On est désarmé face à de telles attaques ?
Alors c'est vrai que jusqu'à présent, je suis un peu protégée peut-être dans les milieux des jeunes que l'on a, mais les jeunes qui sont là disent leur foi, osent dire leur foi. Et après, en dehors, c'est eux qui sont plus confrontés que moi personnellement à ce genre d'attaque, parce qu'il leur dit « mais où c'est que tu vas ? Moi je suis d'anniversaire, pourquoi tu ne viens pas à la fête ? Pourquoi tu vas à l'aumônerie ? À quoi ça sert ?» Oui. Et certains osent dire « si, moi j'y vais, parce que d'abord j'y retrouve mes copains, il y a une bonne ambiance, j'ai envie de vivre ma foi, j'ai envie d'aller partager ça et de rendre service aussi, et d'être auprès des autres et de témoigner de ma foi aussi. »
Fabien Joannolou, vous qui êtes dans un autre milieu, celui de la ruralité, le monde agricole, évidemment, là aussi, c'est toujours avec des mots adaptés qu'on parle de sa foi dans le milieu là où on vit, où on est envoyé. Vous-même, c'est le cas. Vous vous adaptez à votre réalité. Comment on en parle quand on est comme vous, jeune agriculteur, de la foi dans un monde qui peut se désespérer parfois ?
Dans le milieu agricole, c'est assez compliqué aujourd'hui de parler ouvertement de sa foi quand même. Parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs qui sont tournés vers la foi et je trouve ça dommage. Mais moi, je reflète ma foi plus par l'action en fait, par mes engagements et ce que je fais auprès des autres. C'est plus comme ça que je manifeste ma foi en fait.
Oui, c'est par une sorte d'exemple, de chemin de vie. en quelque sorte.
Oui, voilà, par mes engagements au MRJC, notamment ce que je fais. Et je n'ai pas encore repris la ferme familiale, mais de par comment je veux orienter la ferme, c'est aussi tourner vers ça, vers l'accueil et tout ça, quoi.
Fabienne, les jeunes ont besoin de témoins, ont besoin d'exemples, ont besoin de témoignages, pas de grandes leçons, en fait. Vous ressentez ça, sans doute.
Ah, tout à fait. Et eux-mêmes veulent être acteurs aussi. Ils aiment rendre service. Aujourd'hui, on le voit à Lourdes. Hein. Il y a 60 collégiens et 160 jeunes hospitaliers. Donc, ils veulent participer aussi. Alors, c'est vrai que ce qu'on entend, c'est qu'ils ne sont pas dans nos églises. Le dimanche, on ne les voit pas. Mais dès qu'on fait des messes animées, ils répondent présents. Ils sont là. Ils viennent.
Oui, ils sont heureux d'être là.
Ah oui, et ils veulent participer surtout.
Fabien, vous êtes, vous, jeune agriculteur, ce matin par exemple, vous étiez à l'œuvre dans votre ferme.
Oui, c'est ça.
Oui.
Je m'occupais des brebis ce matin.
Ah oui, à quelle heure vous êtes levé?
Et à 7h, comme tous les jours.
Voilà.
C'est une habitude.
Et à 7h, quel est le programme d'un jeune agriculteur comme vous?
Ben, il faut commencer par aller voir les bêtes, voir si tout se passe bien, donner à manger, c'est tout ce qu'il faut. Et là, c'est la période des agnelages et des vélages aussi. Et on en a des vaches en plus. Et il y a des petits agneaux qui ont passé de lait, il faut leur donner le biberon aussi. Enfin voilà, on est aux petits soins, quoi.
Voilà. Et maintenant, vous êtes au Pelé de la Bigorre, quelques heures après. Donc, c'est pas un grand écart pour vous, ça se vit bien?
Non, on s'organise. Et puis hier aussi, j'étais toute la journée avec les jeunes hospitaliers. Enfin voilà, c'est une organisation juste, mais ça se fait.
Donc hier, vous étiez impliqué auprès de ceux qui aident les personnes malades à l'accueil Saint-Fray et
oui,
à
voilà.
Vivre les temps de célébration. Et puis vous faites cet aller-retour entre l'agriculture, la ferme et le pèlerinage.
Oui,
plutôt original.
Mes parents vont à la messe aussi ce matin, donc du coup je leur ai donné un coup de main pour qu'on parte à l'heure. Et voilà, c'est une organisation, mais ça se fait.
Vous me disiez tout à l'heure, vous nous disiez que vous aimiez l'action, en fait. Vous essayez de montrer que la foi habite votre action, ce que vous faites, ce que vous vivez. À quoi sert le MRJC? Qu'est-ce que le MRJC?
Alors, MRJC, c'est Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne. C'est la suite de la Jeunesse Agricole Catholique, créée en 1929. Donc, c'est quand même un mouvement assez vieux. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des jeunes à mettre en place des projets dans les territoires ruraux, dans les villages où il y a de moins en moins de jeunes, de jeunesse et d'animation. Et notre but, c'est de redynamiser un peu ces territoires et de responsabiliser les jeunes de façon à ce qu'ils aient envie de rester sur leur territoire et qu'ils soient fiers de chez eux, quoi.
Donc vous les réunissez, vous essayez d'aller à la rencontre, qu'est-ce qui se vit très concrètement?
On a les jeunes, il y a des vies d'équipe, en fait il y a des équipes de jeunes par secteur, et puis après on organise des camps d'été aussi, et les jeunes sont toujours impliqués en fait dans l'organisation et dans le but qu'ils se responsabilisent. On va notamment au secteur de Galin-Lannemezan, ils font des animations en maison de retraite, plein de choses comme ça. Et c'est en fonction de la volonté des jeunes, ce qu'ils ont envie de faire, quoi.
Sans vouloir être rabat-joie dans une journée de fête comme aujourd'hui, hein, mais le monde de l'agriculture vit de grandes souffrances, de grands doutes, de grosses interrogations sur son avenir. Vous êtes, vous, dans ces réalités-là, dans votre quotidien, non?
Oui, oui. C'est...
Et on arrive avec de l'espérance dans de la désespérance, non?
Ben, il faut quand même garder espoir et être optimiste, parce que je suis certain qu'on aura toujours quand même besoin de l'agriculture, de nos petits producteurs. Et au MRJC, ce qu'on défend, c'est qu'on défend une petite agriculture de qualité plutôt que de l'agriculture industrielle, quoi.
Dans les Hautes-Pyrénées, on est bien préservé d'ailleurs de la très grande agriculture, parce qu'il y a quand même une petite agriculture polyvalente. Enfin, je ne sais pas comment on dit, c'est vous qui allait me corriger là-dessus.
Oui, oui, il y a quand même des petites exploitations où il y a beaucoup de troupeaux qui estivent l'été aussi en montagne. On a quand même préservé de l'agriculture industrielle, même si c'est toujours de moins en moins évident. Il y a de plus en plus d'élevages qui arrêtent parce que les revenus ne sont pas assez élevés, quoi.
Donc, quel âge avez-vous, Fabien?
Moi, j'ai 24 ans.
Donc un jeune de 24 ans qui s'installe aujourd'hui, c'est pas si fréquent, ça n'est pas une évidence, c'est un combat.
Il y en a de moins en moins, il faut surtout être passionné, quoi, pour se lancer là-dedans. Parce que si on n'est pas passionné, c'est pas la peine. Et moi je pense que c'est un peu comme dans l'animation, il faut toujours savoir s'adapter à tous les imprévus en fait, et c'est tout.
Si on... avoir la foi aussi, non ?
Oui, avoir une sacrée foi, ça aide à garder le cap, à garder espoir, oui.
Si on veut des renseignements sur les activités du MRJC, il y a un site internet où il y a un moyen de savoir ?
Alors, il y a un site, une page Facebook, on est même sur Snapchat pour les plus jeunes aussi.
Ouais, super, voilà. D'accord.
On est au plus près.
Donc, il suffit de taper sur des moteurs de recherche MRJC, on trouvera Haute-Pyrénées.
Oui.
Il y a des propositions qui sont faites, on peut même vous rencontrer, vous avez des permanences
Oui, alors il y a Marie, notre permanente, qui est à Tarbes, à la maison de Cézanne, tous les jours. Et le mercredi, elle dédie sa journée à l'accueil des jeunes, tous ceux qui ont envie de la rencontrer comme ça. On est sûr que le mercredi, elle y est.
Fabienne, Julien, vous qui êtes à Séméac, c'est ça, vous vivez à Séméac et vous êtes plutôt dans le monde urbain. Vous faire dialoguer comme ça, ou en tout cas être dans le même studio avec Fabien Joannolo, qui lui est dans le monde rural avec ses réalités, ses joies, ses souffrances, vous trouvez que ça serait peut-être intéressant de faire se rencontrer la jeunesse urbaine avec la jeunesse rurale?
Personnellement, déjà dans mon parcours, j'ai fait du MRJC dans ma jeunesse aussi, je viens du rural quand même aussi,
oui.
On vient tous un peu du rural, les jeunes que l'on a aussi, hein, beaucoup sont du rural aussi, puisqu'ils viennent de la périphérie de Tarbes, hein. beaucoup ne vivent pas dans Tarbes même, donc oui, c'est très intéressant, surtout aujourd'hui avec toutes les réflexions qu'il y a par rapport à l'écologie, par rapport à l'alimentation, les jeunes posent des questions quand même, ils sont soucieux du gaspillage, de savoir comment ils veulent mener leur vie après, donc oui, c'est très intéressant.
Donc on peut imaginer que les jeunes de l'enseignement public de Tarbes puissent faire un bain de laudate aussi avec Fabien Joannolo. Dans quelques temps.
Je ne sais pas les tranches d'âge qu'il a, mais c'est possible, tout à fait, oui.
Pourquoi pas ? Il y a des connexions à faire, sans doute. Là.
C'est sûr, oui.
Bon, on vous souhaite un bon pèlerinage.
Merci.
Merci beaucoup d'être passé par nos studios. Je rappelle que nous étions en compagnie de Fabienne Julien, qui donc s'occupe de l'aumônerie de l'enseignement public à Tarbes et est également auprès du prieuré Notre-Dame des Neiges. Vous vous occupez, je crois, de la librairie Saint-Norbert, un petit peu.
Je suis aussi un petit peu, voilà.
Oui. Tiens, il faut y aller à la librairie Saint-Norbert.
Ah oui, il faut y aller.
C'est l'occasion de rappeler aux auditeurs que, on peut déjà commencer à penser un peu aux cadeaux de Noël à la librairie Saint-Norbert. Il y a tout ce qu'il faut, plein d'idées cadeaux pour toutes les générations, parce qu'il y a pas mal de choses aussi pour les enfants.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de documentation pour les enfants, mais aussi des crèches, etc. Vous pouvez venir.
Pour situer, vous voyez l'aérodrome, la Loubert, Notre-Dame-des-Neiges, le prieuré n'est pas loin.
À côté du collège Victor Hugo aussi, s'il y en a qui connaissent plus.
Et il y a une librairie qui est ouverte tous les jours ou...
Alors elle est ouverte tous les après-midi de 14h30 à 17h30 et aussi après la messe tous les jours à midi.
Donc on vous y rencontre régulièrement?
Plutôt une fois par mois que...
Et merci aussi à Fabien Joannolo. On vous laisse repartir avec ceux que vous accompagnez, notamment les jeunes hospitaliers aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup.
Merci
le MRJC, Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. On vous souhaite un bon pélé. Nous continuons ce programme spécial. Alors, il nous reste environ une quinzaine de minutes avant que nous puissions vivre ensemble le début de la messe. Cette messe qui sera célébrée à la basilique souterraine Saint-Pédis et présidée par l'évêque de Tarbes-et-Lourdes. Donc dans 15 minutes, d'ici
il est encore temps de nous rejoindre, si vous n'habitez pas trop loin.
Oui, là, ça c'est
si vous êtes sur Lourdes, vous pouvez venir.
Et nous marquons une pause musicale. Juste après, nous nous retrouvons pour continuer cette émission spéciale.
Avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le
confiance, aimer.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Il est exactement 10h20, 10h21 maintenant. Dans 10 minutes, un peu moins, nous vivrons ensemble en direct de la basilique souterraine Saint-Pidis, la messe du Pélé de la Bigorre. Ce Pélé de la Bigorre qui, dorénavant, se déroule en octobre, Anne-Rose Jankovic.
Oui, c'est une grande nouveauté.
Ouais. Oui, alors ça paraît une grande nouveauté, peut-être pas uniquement dans notre bouche, mais pour les uns et les autres, ils s'interrogent en disant « Mais pourquoi c'est une nouveauté ?» Parce qu'avant, c'était l'ouverture de la saison, le Pélé de la Bigorre. C'était donc fin mars, début avril, et maintenant c'est en octobre.
On clôture la saison des pèlerinages, comme on appelle un peu dans le jargon lourdais.
Même s'il y a encore beaucoup de monde à Lourdes, hein, il y a non seulement les apprentis d'Auteuil qui sont dans leur 34e pèlerinage à Lourdes, quelques 3000 jeunes et accompagnants. Il y a également en vue les gardiens qui vont venir avec leurs chevaux. Bref, la saison des pèlerinages à Lourdes n'est pas vraiment terminée. Mais c'est vrai que le Pélé de la Bigorre en octobre, ce n'est pas simplement un changement de date. C'est également l'occasion de nouvelles propositions. Nous en avons parlé, Anne-Rose Jankovic, au cours de cette émission, en disant que ce serait une bonne idée que des bigourdans envisagent de venir tout un week-end en Pélé à Lourdes.
Voilà, donc il y a un petit test, on peut dire, cette année. Il y a déjà 13 familles, des parents avec des enfants, quel que soit leur âge, même des tout petits-petits qui ont posé leur valise à l'accueil Marie-Saint-Fray depuis vendredi soir et qui sont là jusqu'à ce soir. Donc c'est merveilleux, ça c'est tout à fait nouveau parce que les personnes malades, elles ne sont pas seules avec leur hospitalier, mais il y a des jeunes hospitaliers, des collégiens et des familles entières qui sont là, et l'année prochaine, celles qui ne sont pas venues pourront maintenant, vous le savez tous, venir participer à ce pèlerinage pendant 2 jours. Voilà, ça c'est une nouveauté, c'est une belle proposition pour vraiment s'imprégner du message de Lourdes.
Vraiment, ce Pélé est transgénérationnel. Il accueille tout le monde. Nous allons parler dans quelques instants des enfants, justement, l'accueil qu'il aurait réservé, et puis le programme spécial grâce à des sœurs, et notamment sœur Eugénie. Mais juste avant, j'aimerais qu'on entende les doyens de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Oh, Laurent Soudemont est allé tendre son micro à Georgette et Yves. Ce sont les doyens, donc les plus âgés de l'hospitalité. Ouais. Il y a de la jeunesse qui arrive, mais il y a aussi des vieux, on en a besoin.
Et ils sont encore en service.
Oui, on les écoute.
Je suis rentré à l'hospitalité en 81. J'ai 93 ans.
93 ans. Et vous êtes au service des pèlerins.
Oui, maintenant, plutôt au service des brancardiers, mais je ne peux plus faire grand-chose maintenant. J'ai été président de l'hospitalité de Bigorre de 87 à 93.
Et vous, Georgette ?
Je vais faire 90 ans dans 8 jours. C'est quand même une fonction qui est de tenir compagnie aux malades et à l'oratoire. Bon, bah, c'est quand même une activité.
Voilà. Ouais,
c'est merveilleux parce que Georgette et Yves, génération.
90 et 93 ans. C'est beau parce qu'ils sont plongés aussi dans la réalité de la jeunesse, puisqu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui viennent servir à l'hospitalité. Ils sont quelques 130, hein, je crois.
Voilà, c'est ça.
David Torchala est en ligne. Bonjour. Rebonjour, David.
Quelle est l'ambiance,
oui,
David?
Bonjour. Oui, mais écoutez, je suis maintenant à l'intérieur de la basilique Saint-Pilis. Il y a un monde fou. Chacun cherche sa place parce que la messe va commencer dans quelques instants. Et vraiment, c'est très beau de voir toutes ces bannières de tous les groupes se mettre en place dans l'allée qui mène de la grande sacristie vers l'autel de la basilique. Et vous savez, j'ai quelqu'un qui est juste à côté de moi qui est très heureuse d'être ici. C'est sœur Monica, vous savez, la responsable de la pastorale des jeunes.
Du service diocésain des jeunes.
Elle est juste avec moi. Oui, je vous la passe.
Oui.
Oui, bonjour.
Bonjour, sœur Monica.
Bonjour. Alors, quelle est l'ambiance? Quelle est l'ambiance et qui accompagnez-vous aujourd'hui, vous, sœur Monica?
Alors, moi, je suis avec le groupe du Pélé des collégiens. Alors, il y a une super ambiance. On est là depuis vendredi soir. Il y a plus de 60 jeunes avec des animateurs, des groupes qui viennent de Vic-en-Bigorre, de Tournai, de Bagnères, de Tarbes, et puis quelques jeunes aussi un peu de Lourdes et de tout le diocèse. Voilà, on a une super veillée festive vendredi soir animée par le groupe Recevez de Bagnères, c'est un groupe de collégiens de Pop Louange, et une équipe d'étudiants qui mettent vraiment le feu à ce Pélé. Tout le monde est vraiment très content.
Merci beaucoup, sœur Monica. On vous souhaite vraiment une belle journée à Lourdes. Alors pour vous, le pèlerinage continue parce qu'il a commencé dès vendredi, hein, avec tous ces jeunes.
Voilà, c'est ça. Et donc maintenant, la messe va commencer. Et cet après-midi, on aura un grand jeu avec les jeunes. Voilà, et on va commencer la messe maintenant.
Belle célébration à vous et à vos jeunes, sœur Monica.
Merci.
À plus tard. Alors les jeunes, parmi les jeunes, il y a les enfants. Bien les enfants, c'est sœur Eugénie qui s'en occupe. Nous écoutons sœur Eugénie.
D'abord, tous les enfants sont invités. Point de vue âge, il y a les petits-enfants à partir de 4 ans, par le biais peut-être de l'éveil de la foi. Et puis jusqu'à 12 ans, en général, nous prévoyons des activités pour eux. Mais les enfants viennent de tous les coins du diocèse. Alors c'est surtout pour l'après-midi qu'ils vont être, que l'on va distinguer leur âge. Parce que le matin, avant la messe diocésaine, où ils sont bien sûr tous conviés, eh bien ils vivent souvent un temps, soit ils sont en train d'arriver par un quart, soit ils ont une possibilité de se confesser, soit encore ils font leur petit pèlerinage en groupe de catéchèse. Mais l'après-midi, à partir de 13h30, eh bien, ils sont attendus à Sainte-Bernadette pour les plus grands, c'est-à-dire pour les enfants qui ont à partir de 7-8 ans jusqu'à 12 ans. Ils auront un beau moment avec tous les autres enfants du diocèse autour de notre évêque, avec des petites activités aussi manuelles, un petit bricolage, avec des petites vidéos, avec des temps de chant, de louange, après des ateliers au choix qui leur seront proposés avant de rejoindre tous les adultes du diocèse pour 16 heures à la grotte. Ces journées, elles peuvent lancer toute une année spirituelle pour l'enfant. Et aussi, on se rend compte que les enfants ne sont jamais seuls. Ils sont souvent accompagnés d'adultes qui les aident sur le chemin de la foi. Mais ces adultes-là aussi, il est important qu'ils se sentent rejoints par notre projet. Et souvent, ce sont des belles journées pour les adultes qui les accompagnent. Et de plus en plus, des parents se joignent à leur enfant. Ils veulent vivre un petit moment avec leur enfant. Et ils sont très touchés de recevoir un petit souvenir de cette journée et de vivre un temps fort spirituel.
Nous venons d'entendre sœur Eugénie, qui est responsable au niveau diocésain de la catéchèse. Dans quelques 3 minutes débutera la messe. Anne-Rose Jankovic, merci beaucoup pour cette émission spéciale.
Merci à vous Mathias, merci à Gilles et Philippe, les techniciens de la première heure. Et puis bien, je souhaite une bonne célébration à tous les auditeurs de Radio Présence.
Voilà, merci Anne-Rose Jankovic.